Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin.
Dans un contexte mondial de guerre multiple et de crise climatique majeure, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Les 8 organisations qui composent ce collectif échangent autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Lors de cette émission, nous allons aborder le sujet de l'inclusion des élèves handicapés dans l'éducation nationale, dans l'école, et la maltraitance qui s'y joue. Parce que on va le voir pendant l'émission, c'est pas du tout simple. Et les enfants, comme les parents, comme les AESH, les métiers qu'on va un peu plus découvrir aujourd'hui, les accompagnatrices, accompagnateurs d'enfants en situation de handicap, sont un petit peu laissés pour compte. Et les classes également peuvent aussi en souffrir, les enseignants aussi. On va parler de tout ça, on va essayer de mettre à plat toutes ces questions-là. Alors, avec aujourd'hui, autour des micros, Virginie, qui est AESH. Bonjour Virginie.
Bonjour.
On reparlera un peu de tes fonctions. Nous avons également Valentin Calan. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Alors Valentin, tu nous expliqueras aussi ta place dans cette émission sur ce sujet. Et nous avons également Michael. Bonjour Michael.
Bonjour.
Michael, toi tu es enseignant.
C'est ça.
Et également, tu es aussi père d'un enfant en situation de handicap. Donc,
j'ai les deux casquettes.
Deux casquettes et surtout les deux visions de la situation.
Un petit peu. Ouais.
Donc le sujet, c'est juste après les brèves, parce que on a une tradition dans cette émission. C'est comme si c'était une émission portée par 8 organisations militantes sur Nancy. On fait. Ça va prendre moins de 10 minutes de faire des petites brèves. Alors je commence tout de suite pour vous informer qu'à Nancy, la Ligue des droits de l'homme, la LDH, commence à créer un observatoire des manifestations. Ça peut aussi s'appeler observatoire des violences policières, ça peut s'appeler des pratiques policières. Il s'avère nécessaire de plus en plus dans notre pays où les forces de l'ordre ont une place de plus en plus importante dans les actualités parce qu'ils donnent un peu de la matraque un peu de tous les côtés. Et donc la Ligue des droits de l'homme s'est dit il y a quelques temps, il faut aussi des observatoires indépendants. Et donc il y a peu de temps un premier stage pour former des personnes, les personnes qui le souhaitent, à donc qui sont des personnes qui doivent pendant une manifestation donnée avoir un statut tout à fait neutre, qui sont des observateurs et qui viennent en manifestation sans a priori, avec de quoi noter, de quoi filmer, et font un rapport après la manifestation observée. On a entendu parler de ça, je ne sais pas si vous avez les uns ou les autres, au moment des bassines, des manifestations de Sainte-Soline. Heureusement que la Ligue des droits de l'homme était là pour rétablir quelques vérités. On est dans une période où on a besoin aussi et c'est regrettable de surveiller, ou en tout cas d'observer des pratiques policières, parce que il y a des dérives et des choses qui sont de moins en moins républicaines, et il est important pour ce travail-là, c'est pas un travail de dénonciation, c'est un travail d'archivage et qui peut être utile quand malheureusement on voit que des institutions policières se mettent même disent des mensonges, mentent. Hein. On se rappelle aussi de Naël, on se rappelle, il y a plein de versions avant d'avoir une, et c'est dommage d'en arriver là, mais je pense que cette initiative de la Ligue des droits de l'homme de faire des observatoires de manifestation, c'est assez salutaire. Et si ce travail-là vous intéresse, je vous invite à contacter la Ligue des droits de l'homme de Nancy. On peut les joindre par mail à ldh-nancy@ldh-france.org. Et je pense qu'on reparlera avec nos amis de la LDH de ce travail-là. Je vous donne maintenant, sans transition, une deuxième brève. Le 25 novembre, tous les ans, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et à Nancy, c'est souvent autour des syndicats, moi surtout les trois syndicats qu'on appelle un peu de transformation sociale, que sont la CGT, Solidaire et la FSU. Des partis politiques bien de gauche soutiennent également la lutte contre les violences faites aux femmes. Et aussi des associations féministes telles que Nous Toutes sont dans les organisations de cette journée. Donc je vais être bref sur le 25 novembre 2023. Le rendez-vous est à 14h, place Saint-Èvre à Nancy. Donc gardez cette date, le 25 novembre 2023, 14h, place Saint-Èvre à Nancy. Et si vous voulez des informations, vous pouvez joindre, si vous êtes syndiqué, ce qui est une bonne chose, appelez votre syndicat. Et sinon, vous pouvez aller sur le site de Nous Toutes, qu'on peut retrouver, ou envoyer un mail à Nous Toutes, NOUSTOUTES, Nous Toutes 54@gmail.com. Ça, c'était la deuxième brève. J'en ai encore deux. Également, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Nancy, y a des manifestations par rapport à tout ce qui se passe comme violence, comme guerre, qui est repris de plus belle et qui a passé un palier dans la violence en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, et avec un gouvernement qui a souhaité interdire toute contestation et toute critique, et donc l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, qui fait régulièrement des émissions dans Parole de Paix, la dernière traitée de cette question-là, mais l'AFPS a été assez bâillonnée, ou en tout cas il y a eu tentative de bâillonnement par Monsieur Darmanin. Trois manifestations ont été interdites à Nancy, mais il a fallu que l'AFPS se batte avec les associations et les organisations pour faire lever deux des interdictions, les deux dernières interdictions, et maintenant la FPS invite les amis de la paix à s'autoriser dans la rue à demander un cessez-le-feu. Donc à suivre aussi sur le site de la FPF, parce que avant la fin du mois de novembre, ils vont faire une nouvelle initiative, et puis ils prévoient aussi une journée de réflexion et d'information. Donc l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité Lorraine Sud, afpslorsud@orange.fr. Et dernière information pour l'instant, pour cette émission, c'est que le 9 décembre prochain, le collectif de Meurthe-et-Moselle pour le désarmement nucléaire, dans lequel le MOC fait partie des initiateurs et organise les réunions. Le 9 décembre, il aura lieu dans les rues de Nancy une action de sensibilisation, une action d'information de la population de Nancy, et une information pour demander aux Nancéens, aux Nancéennes d'interpeller leur maire, Mathieu Klein, afin de demander que la ville de Nancy devienne une ville qui soutient le TIAN, qui soutient le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté à l'ONU en 2017, qui a été adopté en janvier 2021, mais il faut que les pays ratifient ce traité pour combattre les armes nucléaires. Je vous rappelle que les cinq principaux pays qui ont l'arme nucléaire ne ratifient pas, alors que dans le monde entier, le monde entier aimerait bien vivre sans cette contrainte. Donc voilà pour mes quatre brèves. Vous avez des réactions sur l'une ou l'autre, vous avez le droit de les inviter aussi, ou une information aussi sociale ou dans les jours qui viennent. Tout va bien de votre côté. Donc je propose qu'on fasse une petite transition et que nous commencions le sujet.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile. Partons pour le Japon et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher les oursins. Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé et la maison.
Vous écoutez Paroles de Paix sur 90.7 sur RCN. On peut retrouver l'émission sur le site rcn-radio.org. Je crois qu'on est dans la rubrique Société. Et on peut également revisionner toute l'émission sur la chaîne YouTube de RCN Nancy. Cette émission est consacrée, on l'a trouvé comme titre « Inclusion ou illusion », parce qu'elle touche un sujet qui est délicat, qui est à la fois l'enfance, à la fois l'école en France, à la fois les familles et... avec enfants en situation de handicap, et également toutes ces femmes, et ces hommes un petit peu aussi, mais c'est surtout des métiers de femmes, des métiers de lien, des métiers qui sont auprès de ces enfants, qui ont besoin de leur dont les enfants ont besoin du soutien, les adultes aussi, les parents aussi, la place des assistantes d'éducation. Comment c'est AESH
Alors, ce sont les accompagnantes d'élèves en situation de handicap.
Et donc, c'est un métier central, ça fait partie des métiers essentiels et métier aussi, je dirais, maltraité, d'où la place de cette émission dans Paroles de Paix. Et ça fait partie des maltraitances qui nous sont insupportables à Paroles de Paix, parce que quand on maltraite un humain, eh ben, lui-même est dans une situation très difficile, et tout son entourage et tout le monde s'en ressent. Les enfants le ressentent, moi le ressentent vraiment, parce que c'est toute une organisation, et nous allons un peu parler de tout ça aujourd'hui, un peu expliquer, ne pas avoir peur de donner des choses que l'on pense simples, mais voilà, on a dans toutes les écoles de France, je pense, ou une très grande majorité des écoles de France, il y a des élèves en situation de handicap. Je rappelle que c'est en 2005 que Jacques Chirac, je crois, a fait le choix de dire on va arrêter de mettre les enfants handicapés hors de la vue de la société, de les mettre derrière des grands murs que dans des institutions. Il y a ce côté grand cœur. Et après, comment on a traduit ça? Comment derrière certains se sont pas dit ça va faire des économies sur le côté parce que une place en institution est beaucoup plus chère qu'une place à l'éducation nationale. Et donc voilà, comment c'est Virginie qui a proposé le titre l'inclusion ou illusion. Alors qu'en penser? On commence tranquillement. Est-ce que on pose un peu les choses? Est-ce que Virginie, tu nous remets
Je peux redonner un contexte. Aujourd'hui, les AESH, alors on les connaît pas encore vraiment sur ce nom-là. On est resté sur l'ancien acronyme qui était les AVS, donc qui étaient les auxiliaires de vie scolaire, et qui sont devenus en effet maintenant donc des AESH, donc des accompagnantes d'élèves en situation de handicap, donc au sein de l'éducation nationale. Ces accompagnantes dont je fais partie, donc sont en effet, comme tu le disais, donc 93% de femmes aujourd'hui. Elles sont passées d'invisibles, d'ailleurs elles avaient ce statut-là, on les appelait les invisibles de l'éducation nationale. Elles sont, alors je vais dire elles, puisque du coup le statut des 93%, on va le revendiquer un petit peu, côté féministe, avec la journée du 25 novembre, allons-y. Les AESH sont devenues des actrices visibles et incontournables au sein de tous les établissements scolaires, parce qu'en effet, comme tu le disais, il n'est pas rare aujourd'hui que dans toutes les classes, il y ait en effet un enfant en situation de handicap qui nécessite la présence de ce qu'on appelle aussi une aide humaine, donc une AESH, qui va justement lui permettre, sous valeur d'équité, de pouvoir justement suivre la même scolarité que ses autres camarades qui ne sont pas porteurs, eux, de handicap. Donc voilà ce que sont aujourd'hui les AESH. Aujourd'hui, en matière de chiffres, elles sont 132 000. Elles étaient 132 000 en 2021, à la rentrée 2022, pardon. Et elles accompagnent, donc le dernier chiffre, pareil, des élèves en situation de handicap, ils étaient 436 000 élèves en situation de handicap à la rentrée 2022, dont la moitié nécessite ce qu'on appelle un accompagnement individuel. Voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'accompagnement. Les AESH donc font ce qu'on appelle un accompagnement individuel. Donc là, ce sont des élèves qui ont besoin d'un accompagnement à temps complet sur leur scolarité. D'autres collègues, et malheureusement c'est plus souvent le cas, qui sont mutualisés. Donc là, aujourd'hui, nous avons des collègues pour des moyennes de 24 heures de contrat à temps partiel imposé, 6 élèves accompagnés. Le ratio est vite fait pour savoir combien il reste d'heures pour ces enfants en termes d'accompagnement. Et également des AESH dites collectives qui interviennent dans les dispositifs ULIS et qui ont souvent à ce moment-là, qui permettent l'inclusion des élèves des dispositifs ULIS en classe ordinaire. Et elles ont généralement entre 11 et 12 élèves par dispositif ULIS à suivre, ce qui multiplie également tout ce qui est les temps pour les réunions, les équipes de scolarité et tout ce qui va avec.
Donc tu nous dis que ces professionnels qui sont des professionnels de l'accompagnement, des professionnels du soin en termes d'être proches, il y a trois types. Il y a des AESH qui sont une pour un enfant, des AESH qui sont une pour six enfants, donc c'est-à-dire qu'elles doivent se partager, on ne sait pas sur quel moment, avec quels élèves, et puis que font...
Elles se partagent en fonction de ce que vont demander les enseignants et de ce qui va être possible.
Établissements, puisqu'elles peuvent avoir six élèves, mais pas forcément sur le même lieu de travail, ni même sur le même niveau. Et il ne faut pas oublier que sur ces six enfants, ce ne sera pas non plus les six mêmes handicap.
Oui,
donc
ça.
Il faut également, l'AESH a une proportion, une capacité professionnelle d'adaptation au pied levé, au handicap qu'elle va avoir et également au profil d'élève qu'elle peut avoir également en face d'elle, puisque si on prend un exemple d'un élève qui a un trouble du spectre autistique, tous les élèves qui ont un spectre autistique n'ont pas les mêmes besoins, ne se ressemblent pas.
Ils sont tous différents.
Voilà, et n'ont pas les mêmes besoins. Donc forcément, ça veut dire une adaptation au pied élevé et qui va coller le plus aux besoins réels de l'élève.
Oui, juste une petite remarque, c'est quand on dit 1 pour 6, ce sont des faits, mais ça ne correspond pas aux besoins. C'est-à-dire que là...
Les besoins sont plus importants encore.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est malheureusement on fait un état des lieux et donc tu nous dresses effectivement une image de la manière dont les choses s'organisent, se vivent. Mais derrière ça,
la réalité est souvent bien différente.
Les enfants le vivent, comment les équipes pédagogiques les vivent, comment les AESH en tant que personnes vivent ces situations-là. Et derrière ces chiffres, on va rentrer, je pense, vraiment pleinement dans ce sujet-là. Il y a des réalités humaines qui sont très compliquées, je trouve.
Les uns et les autres, là, vous nous dites à mi-mot qu'en fait...
Il y a le discours.
Il y a le discours. Le discours, personne ne peut être opposé à l'accueil des enfants handicapés, les enfants avec les autres enfants, bien sûr. Mais que de l'autre côté, il y a une gestion plutôt administrative, voire libérale, voire où on ne demande pas en fait l'avis aux gens et on ne fait pas en fonction des besoins, mais en fonction, on a une enveloppe. Avant l'émission, Virginie, tu disais qu'il y avait, vous étiez une ligne budgétaire. Et après, on essaye, on tape,
on bricole,
on bricole, on casse, et puis
sur une même année, un enfant peut changer d'AESH par une décision. Alors, on va expliquer après d'où viennent les décisions. Tu disais aussi que ces personnes qui sont en soutien, elles connaissent pas forcément tous les handicaps. Après, il y aura la question aussi de la formation. Mais pour l'instant, il faut donner à voir de l'extérieur que ça se passe à peu près, mais de l'extérieur. Et comme tu le disais, Valentin, il y a derrière peut-être beaucoup de souffrance.
Oui. Ben c'est vrai qu'aujourd'hui, alors pour beaucoup, alors les AESH ont quand même ont été cette année pas mal de fois attaqués, et surtout sur la question où les AESH revendiquaient en effet un vrai statut, à savoir donc un statut de la fonction publique, hein, parce que pourtant on coche pas mal de cases, mais on nous le refuse toujours.
Donc c'est des précaires, c'est ça qu'il faut.
On est vraiment des. Ouais. Bah, de toute façon, les. Alors il faut savoir qu'en nombre, les AESH représentent le troisième corps de métier de l'éducation nationale, et que elles font partie de la catégorie la plus précaire de l'éducation nationale, à savoir que en grande partie, les demandes de, pour donner un exemple hein, concret, les AESH sont la première catégorie professionnelle au sein de l'éducation nationale qui font des demandes pour avoir des aides au niveau des aides sociales au niveau des rectorats. Donc voilà, ça donne un peu une image de ce que représentent, voilà, de ce que vivent les AESH et dans les conditions surtout salariales dans lesquelles elles exercent, à savoir que le salaire moyen d'une AESH pour un contrat de 24 heures, c'est 900 euros net. Voilà, 900 euros net. Aujourd'hui, avec 900 euros net,
on peut pas,
c'est compliqué, hein, compliqué. Voilà. Mais oui, c'est pour ça qu'on le disait, et comme tu le disais aussi tout à l'heure, donc les AESH sont reconnus comme voilà, un métier du lien, mais également aussi du soin. Donc, nous avons été invités à présenter notre métier au CESE.
Alors, donc, CESE, le Conseil
économique et social environnemental, donc jeudi dernier, où il y a eu un retour sur l'enquête qui a été faite, la très large enquête sur les métiers du lien et du soin, et où justement, on a pu également établir le fait que les AESH donc, exercent un métier au sein d'un service public, mais ont quand même, du fait de leurs conditions salariales, ont besoin d'avoir recours pour pouvoir compléter ou vivre dignement, ont besoin des prestations sociales derrière.
Donc, survivre.
Voilà, survivre. Donc se loger, se nourrir, se chauffer aujourd'hui pour une AESH qui se lève tous les matins pour exercer un très beau métier, c'est quelque chose de plus en plus compliqué. Voilà. Donc après, sur tout le vocabulaire que tu as utilisé juste avant, et c'est là que c'est justement ce qu'on peut mettre en parallèle, c'est que tu as parlé de mots comme gestion. Voilà. Alors du moment où on est dans l'humain, du moment où on rajoute le mot gestion derrière, déjà pour moi, il y a une incohérence. Quand on parle de ligne budgétaire, quand on parle justement de gestion, alors que là on parle d'être humain, et plus particulièrement d'enfants, et de leur donner justement accès à quelque chose qui est pourtant, qui paraît si évident de pouvoir avoir accès à l'école, comme tous les enfants, on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, souvent, la scolarisation d'un élève est conditionnée à la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Souvent, un élève, malheureusement, n'aura pas accès si, de l'autre côté, justement, il n'y a pas un accompagnant. Parce que souvent, malheureusement, le maintien en classe s'avère impossible. Parce que on a des troubles qui sont quand même de plus en plus complexes, et pour lesquels, comme tu le disais, malheureusement, les AESH ne sont pas forcément formés. La formation, elle se fait déjà pas avant la prise de poste. Donc ça, c'est également très très compliqué.
Ça, c'est quand même quelque chose d'hallucinant.
Très
c'est-à-dire
particulier.
Que par rapport aux élèves avec qui tu vas être en lien, que tu n'as peut-être pas eu, et souvent, si tu en as plusieurs, tu en as des nouveaux qui arrivent, donc que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas les spécificités, savoir comment faire avec cet élève-là pendant généralement un trimestre, parce que c'est le deuxième trimestre que parfois il y a des temps de formation qui arrivent.
C'est parfois même après.
Plus que compliqué.
Parfois même après. J'ai vu des collègues ne pas avoir du tout accès aux fameuses 60 heures de formation initiale. Alors moi, j'ai jamais appelé ça de la formation. Hein. C'est plutôt de l'information, du bourrage de crâne, 60 heures d'information que tu prends en pleine figure et qu'il va falloir gérer.
Est-ce que tu peux me confirmer, moi, ce que j'avais entendu quand j'avais échangé, c'était des formations aussi en plénière. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un amphi.
On est dans un amphi, c'est ça.
Ou en visio, c'est-à-dire que tu as une personne qui parle.
Un diaporama.
Un diaporama, mais bien
très,
sûr,
très
qui
joli,
lit son diaporama.
Très, très formel.
Mais bien sûr.
Et tu prends tout ça, et bien sûr, tout de suite, tu maîtrises, et ensuite, tu peux même...
Tu sors de là, tu es un professionnel de l'accompagnement. Tu es censé pouvoir accompagner n'importe quel élève, de pouvoir t'adapter à n'importe quel handicap. Et le résultat en est, c'est que on va prendre un cas concret d'une collègue pour sa première journée qui arrive avec l'entrain, la bienveillance, la joie au cœur de pouvoir exercer ce métier. Et dès le premier jour, on va lui dire qu'elle va accompagner 4 enfants, donc 4 enfants qui souffrent de 4 handicaps différents, qu'en plus elle devra se déplacer sur 2 établissements différents et ça avec aucune considération quand elle arrive. On s'en rend pas compte sur le papier, mais c'est d'une violence extrême. C'est vraiment très très violent. Et aujourd'hui, il n'est pas rare que la collègue, le lendemain matin, ne revienne pas.
Donc ça veut dire que c'est des métiers où on demande aux gens d'avoir leur propre leur voiture et de faire les déplacements entre les différents lieux sur leur propre
déplacements qui sont pas indemnisés. Hein.
Oui.
Ils sont déjà pas payés, ils sont déjà pas payés beaucoup et en plus c'est à leur charge.
Quand on voit aujourd'hui, alors on a pas mal de collègues qui sont militantes, hein, qui se sont à un moment donné aussi manifestées et qui ont dit non. Quand on leur, à un moment donné, quand on a un énième changement d'emploi du temps et on rajoute un énième établissement sur une semaine et quand on voit de l'autre côté, surtout en ce moment avec la crise inflationniste, qu'il faut aller mettre de l'essence dans sa voiture et qu'on sait que ces déplacements-là ne seront pas pris en compte, là ça a été un non. Ça a été non, je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Je ne ferai pas ce énième remplacement parce que une collègue est malade ou autre et que du coup il faut à un moment donné enlever des heures à Pierre-Paul pour pouvoir les donner à Abdel, à Margot. On en est à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on bouge un AESH d'un endroit à un autre parce qu'il y a un nouvel élève qui vient d'arriver et que les notifications MDPH tombent tout au long de l'année, elles n'arrivent pas qu'à la rentrée scolaire.
On va en parler de ça après.
Voilà, parce que ça c'est aussi, on ne se rend pas compte de la complexité, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous commencez à accompagner 2 élèves en début d'année à la rentrée que vous n'allez pas en avoir 3, 4, 5, 6 avant la fin de l'année, parce que les notifications, elles, continuent de tomber tout au long de l'année et que les élèves en situation de handicap, arrivent, les notifications tombent et à ce moment-là, il faut immédiatement pouvoir déclencher un accompagnement. Sauf qu'au lieu de déclencher une embauche, on va demander à l'AESH de mutualiser. Donc, c'est-à-dire qu'elle va enlever des heures. Non, mais c'est ça, c'est qu'elle va enlever des heures aux élèves qu'elle accompagne déjà pour pouvoir aller en donner un petit peu aux petits nouveaux qui arrivent. Quand on ne demande pas carrément à l'AESH d'abandonner les 2 élèves qu'elle avait, qui vont se retrouver sans accompagnement, pour aller avec un nouvel élève qui, par exemple, a une notification individuelle avec un trouble particulier, et où lui passera prioritaire.
Oui, je voulais demander à Mickaël, oui, c'est vrai, on n'a pas cette vision-là que des élèves entrent dans ce système tout le temps, en permanence. Et donc, comment ça se passe quand on est parent déjà, le handicap n'est pas forcément écrit, inscrit sur l'acte de naissance. Des choses peuvent se dérouler au fur et à mesure de la
tout
vie
simplement,
d'une famille, d'un enfant
ça.
Et d'une famille.
En fait, souvent, ça se passe, en fait, c'est l'école qui va se rendre compte qu'il y a des soucis. Et l'enseignant va demander à rencontrer les parents et l'enseignant va dire à la famille que il faut faire quelque chose, qu'il y a des démarches à faire parce que la scolarité de leur enfant ne se passe pas correctement, elle perturbe à la fois la classe, mais surtout elle est difficile pour l'enfant porteur de handicap. Et c'est l'enseignant qui le constate au fil des jours. Et c'est pour ça que les notifications tombent tout au long de l'année.
Ça veut dire que c'est les enseignants
Les enseignants alertent les parents.
Voilà.
Et les parents vont rentrer dans un processus qui est long, compliqué, difficile. Premièrement, l'acceptation du handicap.
Que son enfant,
enfant est différent.
Voilà.
Ça, c'est très compliqué pour chaque famille.
Bien sûr.
Même pour au sein de ma famille, je suis enseignant, j'en vois plein, j'ai déjà fait les démarches du côté enseignant. Le jour où ma collègue m'a dit « Ton fils, il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir faire quelque chose pour l'aider », c'est pas évident à entendre, c'est pas évident à accepter. Ça met du temps. Et là, on rentre dans les démarches, donc on va contacter la MDPH, donc la maison du handicap. Il y en a une par département.
Oui.
Et là, eh bien, il va falloir remplir un dossier. Donc il y a plusieurs parties qui vont intervenir. Il y a la famille qui va remplir une partie du dossier. Il y a l'école qui va remplir, qui va faire une partie du dossier. Et puis, il y a le côté médical. Et là, le côté médical, ça veut dire que la famille, il va y avoir des frais à avancer. Parce que pour que votre enfant soit reconnu porteur de handicap, eh bien, il faut qu'il y ait un diagnostic. Et le diagnostic, eh bien, il peut être très très long. Quand tout à l'heure, Virginie parlait d'autisme, l'établissement qui peut le mieux diagnostiquer l'autisme, c'est ce qu'on appelle le CRA, Centre Régional d'Autisme, Centre Ressources Autisme. Les délais pour que votre enfant puisse être diagnostiqué, c'est 1-2 ans.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas assez de personnel disponible pour poser les diagnostics. Donc, ça va prendre du temps ça va coûter de l'argent. Parce qu'une fois que votre enfant va être connu, eh bien que vous allez vous dire, l'enseignant va peut-être dire, il faudrait aller voir une orthophoniste. Alors l'orthophoniste, c'est pas trop mal, ça va, c'est remboursé par la Sécu, c'est pris en charge. Là, les familles, elles jouent le jeu, elles peuvent y aller. Le problème, c'est de réussir à trouver de la place, parce que maintenant, il y a tellement d'enfants qui sont porteurs, qui ont des problèmes, que les orthophonistes sont pas assez nombreuses. Si c'est un petit peu plus compliqué, que c'est des problèmes de motricité, pour l'écriture, pour des choses là, il va falloir de la réadaptation, il va falloir du travail. Alors ça peut être une psychomotricienne ou un psychomotricien, ou alors une ergothérapeute. Et psychomotricienne et ergothérapeute, ces deux-là qui sont indispensables pour que l'enfant puisse poursuivre sa scolarité, et ben là c'est pas pris en charge par la Sécu. C'est pas pris, et si la mutuelle prend pas en charge une partie non plus, eh bien, c'est un coût énorme. Faire un bilan chez un ergothérapeute qui prend plusieurs heures, donc déjà, il faut aussi que les parents se rendent disponibles, et le temps de le faire, ce qui n'est pas forcément évident, hein, parce que quand on est en ville, bon, on arrive à trouver un spécialiste pas trop loin. Comme ils ne sont pas assez nombreux, il faut avoir un rendez-vous, il faut que ça puisse correspondre et tout. Mais quand vous êtes à la campagne, quand vous êtes dans le pays haut, c'est encore plus compliqué. Donc, prendre un rendez-vous chez un bilan chez une ergothérapeute, c'est 200-250 euros. Et un suivi, aussi, après, c'est une heure par semaine, c'est 60, voire plus. 60 euros, voire plus.
Ce qui est important dans ce que tu dis, et ce qu'il faut aussi entendre, c'est que du coup, cela exclut certaines familles. Parce que certaines familles, justement, ne peuvent pas assumer le coût de ces suivis et de ces bilans, et qui finissent par abandonner.
Et donc les enfants ne sont pas reconnus à MDPH, n'ont pas de notification, n'ont pas d'aide humaine, n'ont pas de l'aide dont ils pourraient avoir besoin. Et donc, ces enfants, on les a quand même dans le système scolaire, ils sont dans l'école. Et puis, vous avez à côté une AESH qui est là, qui s'occupe déjà d'un enfant, et puis qui voit cet enfant en galère. Elle est humaine, elle donne le coup de main. Alors, la directive qu'on leur donne, c'est vous aider que les enfants qui sont reconnus.
Sur votre fiche.
Oui, mais bon, quand vous avez quelqu'un à côté de vous...
Oui, parce que
c'est très très compliqué. Donc, humainement parlant, c'est très très compliqué.
Et donc on voit le parcours pour que une difficulté qu'on peut voir, ou sur laquelle une difficulté partagée après avec les parents et l'école, on voit le passage obligé par la maison départementale du handicap, MDPHP, des personnes porteurs de handicap.
Maison départementale.
Et après, comment... donc après, vous avez parlé de notification, donc c'est-à-dire que il y a un niveau où on met en relation.
Une fois que le dossier est complet et est déposé à la MDPH, il y a une commission qui se réunit, qui étudie.
La CDAPH.
Voilà, et cette commission va décider si votre enfant est porteur de handicap, déjà premièrement, et s'il a le droit à une aide. Et quelle est cette aide? Ça peut être un ordinateur,
ça peut être une aide matérielle.
Voilà. Oui. Moi j'ai un fils qui est autiste. Il a le droit à une aide humaine. Là maintenant il est au lycée, donc on va pas se mentir, l'aide humaine au lycée. on m'a bien fait comprendre que j'étais gentil, mais qu'il fallait qu'ils deviennent autonomes. Ah oui, mais enfin, quand votre gamin il rentre en seconde, c'est quand même un gros changement. Bah, quand votre gamin autiste rentre en seconde, c'est encore un plus gros changement. Mais voilà, il a 4 heures, il se débrouille avec ça, il est mutualisé. Bon, ben voilà. Hein. Mais j'ai eu la chance...
Par jour, par semaine ?
Par semaine.
4 heures par semaine.
Ça peut représenter peut-être une seule matière dans laquelle, en effet, il aurait plus de difficultés qu'ailleurs. Mais 4 heures, ça ne représente... rien, surtout sur un emploi du temps de lycéen.
Bah, c'est ça.
4 heures, c'est rien.
Donc voilà, moi, mon fils, par exemple, avait le droit aussi à un ordinateur. Bon, j'ai la chance d'être enseignant, d'avoir des moyens. J'ai préféré prendre un ordinateur personnel et j'ai pu faire des séances d'ergothérapeute pour lui apprendre à manier l'ordinateur. Et comme j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui m'ont alerté très très tôt, moi j'ai fait les démarches, j'ai commencé... La prise en charge de mon fils, il était en moyenne section de maternelle. Le bilan, le diagnostic a été posé début de CE1. Donc vous voyez, hein, moyenne section, grande section, bon, CP, le temps de faire le bilan. Et maintenant, pour l'autisme, c'est encore plus long, puisque moi, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous rapidement. Maintenant, c'est beaucoup plus long. Et la prise en charge a vraiment... Enfin, le diagnostic a été posé en CE1, et donc à partir du CE1, on a commencé l'apprentissage de l'ordinateur, parce qu'on savait qu'il n'arriverait jamais à écrire correctement et tout. Et donc, voilà, il est arrivé au collège, il était autonome sur son ordinateur, il pouvait se débrouiller. Il n'a pas eu d'AESH pendant 2 mois, parce que il y a eu des problèmes, elle n'était pas notifiée, il n'y avait pas les papiers, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Alors qu'elle... Enfin, si, elle était notifiée, mais il n'y avait personne sur le poste. Donc c'est ça aussi la réalité des choses. C'est que même s'il y a une notification, il n'y a pas forcément une personne qui est là, qui est présente. Parce que c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure, c'est ce qu'expliquait Virginie tout à l'heure. On va enlever à Pierre pour mettre à Paul, et etc. etc.
Et c'est le jeu des chaises musicales. Et là, on a une situation un peu particulière, parce que tu connais très bien... Le milieu scolaire, tu en connais les rouages,
mais c'est ça.
Tu as les facilités financières en tout cas.
Je savais ce qu'il attendait, donc j'ai fait les démarches très rapidement et j'ai eu la chance qu'il soit autonome en 6e. Mais très régulièrement, moi je suis à l'école primaire, hein, je suis à l'élémentaire. Le temps que les parents fassent les démarches, quand nous on les prévient, parce que souvent on les prévient, on commence à les alerter au niveau du CP, parce qu'il y a la lecture et c'est là qu'on voit, parce qu'il faut rester plus assis qu'à la maternelle, etc. etc. Donc le temps que les parents fassent les démarches, acceptent la chose, rentrent dans le dispositif, et le temps que la MDPH notifie, eh bien ça met du temps, ça met du temps. Donc très souvent, ce que fait ma collègue de CP, c'est qu'elle alerte, et puis elle en voit jamais le bénéfice. On commence à voir le bénéfice chez moi, chez les CE1 ou chez mes collègues de CE2, parce que il faut du temps pour que les démarches se fassent, que les personnes arrivent et que ce soit pris en charge.
Donc, autant d'années où les enfants sont en souffrance, ou l'équipe éducative est en difficulté
et les autres élèves en pâtissent, parce que quand vous avez un enfant qui pousse des cris parce que il peut pas faire autrement,
il s'exprime de cette manière-là.
Et que il y a pas de place en Ulysse, il y a pas de place en hôpital de jour, il y a pas de place ailleurs, il y a pas de place en IME, institut médico-éducatif pour les enfants qui sont un peu plus déficients, qu'il y a pas de place ci, qu'il y a pas de place là, eh bien cet enfant reste dans le milieu ordinaire, et dans le milieu ordinaire, eh bien lui il est en souffrance, l'enseignant qui est en face de lui souffre aussi. Et les élèves qui sont autour de lui souffrent aussi parce que son comportement dérange et les apprentissages ne se font pas dans de bonnes conditions.
Je vous propose qu'on fasse une première coupure musicale avec la chanson La Tendresse, parce que c'est tous ces métiers du lien, et notamment on parle de l'enfance, on parle de l'inclusion, on parle du handicap. On écoute La Tendresse et on reprend après.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien.
Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question.
Non, 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 il n'en est pas question.
Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment.
Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long.
Le temps vous paraît long.
RCN, Parole de paix, Stéphane Tabourin.
RCN, Parole de paix consacrée cette fois-ci sur la question du handicap et de l'inclusion des enfants dans l'école. Cette inclusion qui est souvent rêvée par tous, mais la réalité est bien souvent décevante et il y a beaucoup de progrès à faire, on le voit. C'est Valentin qui m'avait proposé de faire cette émission. Valentin, toi tu es un dans la vie du travail plutôt sur la question de l'environnement, je crois, dans la nature. Ta sensibilité, tes intérêts sont aussi touchés par l'humain et par les liens entre les personnes. Tu es militant à la France Insoumise. On a été assez touché par le film de François Ruffin qui s'appelait Debout les femmes, où ce député France Insoumise, c'est une des questions qui l'interroge, et peut-être que c'est ça qui t'a donné le déclic de t'intéresser davantage à la question de ces métiers essentiels et pourtant si mal considérés. Et donc tu as rencontré à la fois Michael et Virginie le 3 octobre dernier lors d'une manifestation à l'appel des syndicats d'AESH, et c'est là que tu les as rencontrés, c'est ça ?
Oui, et c'était une belle rencontre. Donc nous nous étions retrouvés devant le rectorat sur une grève nationale et qui était l'occasion de redire la situation que vivaient les AESH. Je vais repartir de quelque chose qui a été dit au tout début, c'est le salaire et le dénuement aussi financier dans lequel se retrouvent les AESH. C'est-à-dire que nous avons développé la partie, les conditions de travail qui sont compliquées, qui sont dures, qui génèrent de la souffrance. Parce que humainement, quand on voit que un enfant a besoin d'être accompagné, a besoin qu'on soit là et que on n'y arrive pas, ou on peut pas, ou on nous demande de ne pas le faire, eh bien, ça génère beaucoup de souffrance.
Et surtout qu'on a un côté, il y a des belles idées auxquelles personne ne peut être opposé. C'est toujours des beaux mots. En fait, c'est le côté moche de certaines politiques libérales, si j'ose le mot. Oui, à la fois, c'est des grandes valeurs, des grands mots qui sont utilisés, et la réalité, c'est compression, compression, compression. Faut pas qu'on dépense trop d'argent. L'argent, il y en a pas. En tout cas, il y en a pas pour un certain nombre de choses. Il y en a pour d'autres choses. Mais c'est ça qui abîme et les personnels, et comme disait aussi tout à l'heure Michael, ça a des répercussions sur tous. Là, on parle surtout de l'école, mais pour l'hôpital public, ils font la même chose. Pour la justice, ils font la même chose. Il y a des grands mots, et ils agitent des grands bras, mais derrière, des gens souffrent parce qu'ils veulent faire des économies pour pouvoir donner l'argent à d'autres personnes ou dans d'autres lieux. Moi qui suis antimilitariste, 40% d'augmentation sur le budget de la défense, 413 milliards d'euros dépensés pour l'armement, moi ça me choque. Par contre, pour les besoins, pour qu'on vive mieux ensemble, pour qu'il y ait de la solidarité, du bonheur, qu'on n'ait plus de gens en souffrance. Et là aujourd'hui c'est sur l'école, et sur l'école autour des enfants porteurs de handicap et des autres, disait Michael aussi tout à l'heure, c'est vrai que c'est triste, il y a un discours et des pratiques maltraitantes de l'autre côté.
Au départ il y a une idée qui a pris une forme impulsée par la loi, qui a été de se dire on garantit l'accès aux droits fondamentaux pour tous les citoyens. Donc ça, c'est la loi du 11 février de 2005. Et on se dit que ça, bah, grâce aux parents, grâce aux associations, il y a eu quelque chose de grand, de beau, qui a été posé.
Et des économies aussi, je disais, parce que c'est aussi une des institutions qui coûtait très cher, enfin, qui coûtait cher, et c'est normal. Mais alors, à la fois, personne ne peut être opposé à ce qui est de la, du lien, et qu'on se voit tous, et qu'il n'y ait pas des grands murs derrière lesquels on cache ce qui fait honte, entre guillemets, mais qu'on soit une société multiple, avec des gens différents. Mais d'un autre côté, les financiers, ceux qui regardent que les comptes, ils disent « Oh, ça me coûte moins cher de sortir un enfant d'une institution, de le mettre dans l'éducation, parmi plein d'enfants, d'embaucher vaguement des gens sous-payés, maltraités. » Et derrière, le tiroir caisse, il va bien pour ceux qui seront les tenants de ce système-là.
Alors, c'est ce qu'on peut interroger. C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'intéresse à des notions en se disant, voilà, il faut faire en sorte de s'occuper des personnes en situation de handicap, et on fait en sorte qu'il puisse y avoir des personnes, et on colle dans les colonnes le nombre de personnes et le nombre d'enfants. Ou est-ce qu'on parle de la réalité de ce que vivent les enfants? C'est-à-dire qu'on parle des besoins. Et souvent, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de ces besoins-là, pour se dire comment un enfant vit les choses. C'est plutôt de se dire, écoutez, ben, y a des enfants, ils sont quelques-uns ici, y a quelques personnes à qui on va donner du travail, et ben, voilà, ça sera bien, les choses vont matcher. Or, en l'occurrence, c'est pas ce qui fait. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont accompagnés, mais un enfant qui est accompagné, et quand à un moment donné cet enfant-là a une rupture parce que son ASH ne peut plus le suivre, eh bien, ça génère aussi à nouveau des souffrances. Donc, comment est-ce que concrètement on pense le bien-être de ces enfants-là? Pour certains, avoir des instituts avec des professionnels, avec des gens qui sont spécialisés et qui ont des configurations autres qu'une classe habituelle, eh bien, ça peut être peut-être nécessaire ponctuellement ou sur une certaine durée. Et pour d'autres, ça peut être plutôt de se dire, effectivement, l'accueil dans une classe, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça grandit l'enfant. C'est pas le fait de se dire, il faut y aller parce qu'il faut y aller, c'est que ça lui apporte quelque chose. Ça va lui permettre, à un moment donné, de créer un lien, de trouver sa place, sa juste place, sa bonne place dans cette société-là.
Et tout à l'heure, Virginie utilisait le mot, on est dans du bricolage. Et c'est ça qui est...
bricolage organisé.
Et ouais, c'est ça qui est violent. Et alors qu'il y aurait des solutions. Et c'est en ça que, par exemple, les AESH qui s'organisent, qui se parlent, qui se mettent en collectif, qui se syndiquent ensemble, et avec les syndicats d'enseignants, avec les parents d'élèves, peuvent porter des propositions, qu'on essaie de sortir d'une situation, d'un objectif qui peut être commun, on peut trouver, mais il faut qu'il soit accompagné des moyens des moyens communs. Je veux dire, c'est pas.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Michael. Ce qui est aussi à déplorer, c'est quand même que chaque année, à chaque rentrée scolaire, on se dire que ça peut pas être pire, et que malheureusement, si.
Comme pour les enseignants, il y a.
Voilà, on a fait référence quand même à la loi du 11 février 2005, qui est quand même très très importante et qui pose quand même un cadre législatif là-dessus. Aujourd'hui, on est en 2023 et on est quand même forcé de constater que rien n'est adapté. Encore aujourd'hui, ni les salles de classe, ni la formation des personnels, ni les effectifs à la prise en charge et à l'accueil des élèves en situation de handicap. Quand on voit aujourd'hui que même si des AESH, alors moi je le vois puisque je suis dans le second degré, donc au collège justement, tout à l'heure Mickaël justement parlait de la petite fiche qui arrive, de la reconnaissance MDPH, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette petite feuille une fois qu'on l'a ? Ce petit sésame en vérité n'en est pas un, ou en tout cas quand on pense, ou quand les parents pensent ou espèrent que c'est la fin pour eux d'un long parcours semé d'embûches, en vérité, que nenni, ça continue. Ça continue parce que avoir une notification MDPH pour son enfant ne veut pas dire forcément que les adaptations vont être faites, comme tout d'ailleurs, même sans qu'il y ait un handicap particulier ou un besoin d'accompagnement d'aide humaine, hein, on y va par là même avec ce qu'on appelle les PAP, la mise les en PAP, place ouais. ou le respect d'un PAP, voilà, pour un élève qui a... Alors les PAP, donc, ce sont des mesures, on va dire, d'adaptation particulière aux apprentissages des élèves qui ont en effet ce qu'on appelle... des élèves qui ont des besoins particuliers, mais qui ne rentrent pas dans les catégories d'élèves handicap. Handicap, qui nécessitent en effet un accompagnement, une aide humaine, mais qui ont des besoins également. Ce sont les élèves, comme disait tout à l'heure Mickaël, celui qui est à côté de l'AESH, mais qui n'a pas de notification, mais qui rame, mais que l'AESH va avoir à cœur quand même à un moment donné de venir donner un petit coup de main, parce que du coup, elle va pas le laisser à la ramasse ni se noyer, même ça, si on nous dit qu'il faut pas le faire.
Voilà. Ça, c'est dans le primaire, mais dans le secondaire.
C'est également le cas.
Mais il y a beaucoup moins d'AESH dans le secondaire que dans le primaire, je pense.
Alors, je vais te donner un exemple, rien que sur mon collège, on est 11.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc, c'était vrai avant, ça ne l'est plus aujourd'hui.
Mais cette question très sensible, elle demanderait déjà plus de dialogue, plus de mettre beaucoup
mais
de choses
sur,
et beaucoup de choses sur la table, y compris faire la classe, côté enseignant, peut-être aussi penser l'école différemment, parce qu'on peut pas avoir à la fois une société hyper compétitive, mettre dedans, parce qu'on a la belle idée de dire qu'il faut que tout le monde soit ensemble, on les met, mais on pousse bien pour que ça rentre à peu près, effectivement tout le monde souffre.
Il faut pouvoir déjà communiquer entre nous.
Et tout à fait.
Le problème, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, il n'existait même pas encore de formation commune à AESH enseignant. Donc déjà là, ça ne peut pas fonctionner, puisqu'il faut qu'il y ait une coopération.
Il y a aussi un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est aussi la relation humaine entre, entre l'enseignant qui est là dans sa classe, qui est le chef, qui est le patron, et l'AESH qui arrive là, qu'on lui impose. Parce qu'il ne l'a pas choisi.
Ils se sont pas choisis. Les deux
ne se sont pas choisis. Ça peut être compliqué s'ils ne s'entendent pas.
Certains enseignants, c'est malheureux à dire, mais sont encore réfractaires. Et après, ils vont râler parce que l'enfant perturbe, etc., etc. Mais ils vont aussi râler parce que l'AESH, elle est là, elle parle un peu fort, parce que, quand elle...
Ou elle recadre l'élève,
elle recadre l'élève quand il y a besoin, bien sûr. Et c'est compliqué de trouver la place pour chacune des personnes et d'accepter que on n'est pas le seul l'enseignant, c'est pas le seul dans la classe, le seul adulte, le seul maître, le seul.
Mais ça vient aussi de la reconnaissance que l'AESH
pour certains, c'est difficile.
Aujourd'hui fait partie de l'équipe éducative. Point barre. Ouais. Je veux dire et malheureusement et c'est également le côté à ce moment-là, on va dire très revendicatif, c'est que tant que les AESH, je vais avoir des mots un petit peu crus, auront un salaire de merde et seront considérés comme des précaires, on ne les considère pas comme des professionnels à part entière, qui ont leur place et une vraie place au sein de l'école, au sein également, même des réunions, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a des équipes de suivi de scolarité, donc ce qu'on appelle les réunions d'ESS, qui déterminent à un moment donné justement le besoin d'accompagnement, comment on fait sur les adaptations, la poursuite de l'accompagnement, l'AESH a toute sa place, puisqu'elle est quand même l'interlocutrice privilégiée de cet élève, elle porte sa voix à lui et vient à un moment donné, quand d'autres peut-être ne s'en rendent pas compte, pointer du doigt des difficultés que les autres ne voient pas.
Donc peut-être qu'une chose, je ne sais pas si vous, tous les trois vous serez d'accord avec vos statuts différents, parents, enseignants, AESH, militants politiques, dire que peut-être que le premier des leviers serait déjà que ces personnels, ces personnes professionnelles de l'accompagnement aient un statut
digne de ce nom,
et c'est la première et c'est peut-être la première
le point de départ
en tout cas
c'est un point de départ.
Moi je l'articulerai avec le sens avec le sens de ce métier là tout à l'heure quand on parlait de la nécessité du lien avec les enseignants, eh bien si vous avez 10 enfants avec lesquels vous êtes en lien et que vous passez d'une classe à l'autre, eh bien ce lien là c'est vraiment compliqué de le construire. C'est donc du coup il faut qu'il puisse y avoir une réflexion sur les AESH, effectivement, sont là pour qui, pour faire quoi. Si c'est pour les enfants, eh bien, si on leur donne plus de temps, ça leur permet aussi de s'inscrire dans un établissement et en évitant de saucissonner le temps de déplacement d'un établissement à l'autre, eh bien, ça perturbe également la manière, à un moment donné, dont les enfants vont pouvoir construire leurs relations.
La grève du 3 était également pour mettre justement en lumière les conditions de travail des AESH, mais également d'accueil des élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, quand tu parles de sens du métier, si la plupart des collègues étaient réunis devant les rectorats pour justement à un moment donné dire stop, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on agisse autrement, il faut revoir la copie complète de ce qu'il y a à faire, et en tout cas on ne va pas dans la bonne direction, c'est justement parce que les collègues ont une perte de sens de leur métier. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le premier indicateur de ce mal-être au sein de l'éducation nationale et des AESH, c'est le nombre de démissions, donc les collègues finissent par démissionner, sont licenciés pour inaptitude et fuient le métier parce que justement elles ne s'y retrouvent plus et qu'on s'éloigne du sens même de la qualité humaine essentielle à ce métier.
Donc pour conclure, je vous propose qu'on invite les auditrices, auditeurs qui connaissent ou qui sont elles-mêmes AESH de se regrouper. Virginie, toi tu es AESH, tu es co-animatrice du pôle sur les AESH, la réflexion du syndicat CGT Éducation. Il y a des, donc syndiquez-vous les AESH. Je dirais aussi aux enseignants également, là aussi, parce que c'est vrai que des enseignants, tout à l'heure Mickaël le disait, peuvent aussi souffrir. Et ben là aussi, parlez-en, ne restez pas seul, syndiquez-vous, allez dans des réunions. Et les parents, est-ce qu'il y a je pense qu'il doit y avoir aussi des associations de parents, je ne sais pas trop comment elles fonctionnent.
Alors, les associations de parents, c'est souvent par rapport au handicap de l'enfant.
D'accord.
C'est vrai qu'elles sont d'une aide énorme pour les familles, surtout quand on découvre le handicap chez son enfant.
Et puis donc, et aussi pour le militant politique, eh ben, regardez les programmes, regardez ce que les organisations proposent, allez interpeller les politiques, parce que au fin, c'est quand même une question hautement politique, c'est des choix de société, c'est des choix de où on met des moyens et pourquoi faire. Virginie, je te laisse le mot de la fin, et après on se dit au revoir.
Je vais dire un petit mot après.
Je pense juste que voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, à l'image de comment on prend soin de nos aînés, on perd nos valeurs profondes républicaines, mais également sociales, et on met l'humain très très loin avec un vocabulaire très managérial, très gestion, etc. Et il faut que ça s'arrête.
Je n'ai pas répondu tout à l'heure exactement à la question à partir du 3 octobre. J'avais plaisir à faire en sorte de donner une suite à cette mobilisation pour montrer la réalité qui est derrière. Et si on peut aussi avoir des retours des auditeurs, des auditrices sur les situations qu'elles vivent, qui sont contraints parfois, qu'il puisse y avoir des retours, ça serait intéressant que l'émission ne s'arrête pas là et qu'il y ait une suite aussi à cette émission.
Mickaël, ton petit mot à toi, et après on arrête.
Un bon courage à toutes les familles qui sont dans cette situation-là. C'est semé d'embûches, mais de voir son enfant évoluer et poursuivre sa scolarité, c'est merveilleux. Moi, j'ai assisté à la remise du diplôme du mien hier. Ça fait plaisir de le voir, quoi. Malgré son handicap, il était comme les autres.
Eh bien, merci à vous trois et à bientôt et bonne écoute des différentes émissions sur Radio Carim Nancy. Au revoir.
Merci.